France Musique. France Musique, les grands entretiens, Thomas Verkracht.
Je m'appelle Carole Beffa, je suis née à Paris, je suis compositeur, pianiste et musicologue.
Carole Beffa, comment Ligeti est arrivé dans votre panthéon musical ?
Alors, ça s'est fait de façon assez progressive. Je me souviens, au cours d'un stage à Flaine, à l'Académie de Flaine, d'un pianiste qui avait mis à son programme trois compositeurs, qui étaient Oana, Messiaen, c'était ses préludes, donc une œuvre assez à part dans la production de Messiaen, encore un peu debussiste, mais déjà très Messiaen, et puis quelques-unes des études de Ligeti. Dans mon souvenir, il y avait... Corde à vide et probablement arc-en-ciel et sans doute une autre, mais je ne sais plus laquelle. Et j'avais été émerveillé par cette musique. À peu près au même moment, j'avais décidé d'une façon un peu hétérodoxe de parfaire ma connaissance de la musique contemporaine en allant à la discothèque Mouffetard emprunter les disques quasiment par ordre alphabétique de Adams, compositeur très peu connu à l'époque, à Zimmermann. Et je crois que j'avais emprunté pas mal de disques de Ligeti, notamment ces deux pastiches postmodernes pour clavecin de 78, Passacaglia Ungherese et Hungarian Rock, mais aussi ces quatuors à cordes. J'avais d'ailleurs envisagé de travailler sur les deux quatuors à cordes de Ligeti avec Alain Poirier, avant finalement de me tourner vers ses études pour piano.
Et le goût de la musique contemporaine, il est arrivé presque par hasard, en flânant dans une médiathèque, où il y a eu une vraie recherche, une vraie démarche derrière.
Il est aussi arrivé parce que je suis venu à connaître, à fréquenter quelques compositeurs. Assez vite, notamment à Flaine, je me suis lié avec Laurent Petit-Girard, pour une raison qui tenait d'ailleurs à la musique de film, dans le film « Dans la citadelle », dans lequel je jouais le fils de Claude Rich, quand je devais avoir 10 ou 11 ans. Eh bien, la musique était signée de Laurent Petit-Girard. Je lui ai été présenté, il m'a très gentiment pris sous son aile, il m'a donné beaucoup de conseils en musique, je ne l'ai jamais vraiment perdu de vue, et j'ai eu l'occasion de rencontrer son frère, Alain Kremski, dont il était un peu question, pianiste au toucher absolument phénoménal, esprit très torturé à sa façon, malheureusement un peu paresseux, il le reconnaissait lui-même volontiers, mais prodigieusement musicien dans tous les pores de sa peau.
Vous avez parlé de John Adams, je suppose qu'il y a Steve Reich aussi. La rencontre avec cette musique américaine, elle s'est passée comment ?
Elle est un peu liée à Flaine également. Il y avait un compositeur péruvien qui était inscrit en, je pense, en thèse d'esthétique à Paris 1. C'était un spécialiste d'esthétique qui s'inscrivait plutôt dans la mouvance adornienne et qui croyait assez dur en l'idée de progrès en art, et en musique en particulier. Et, bizarrement, ce péruvien était un peu perplexe parce qu'il avait à la fois ce son de cloche adornien assez orthodoxe et parce qu'il connaissait aussi une musique qui n'était pas si connue que ça à l'époque, qui était donc celle de Steve Reich, qui l'étonnait et le fascinait par les phénomènes de micro-modification qui peuvent s'opérer, par les phénomènes de déphasage, et aussi pour son hyperpulsation et son hyperconsonance. Et c'est à cette occasion, ça devait être en 89, que j'ai entendu pour la première fois la musique de Steve Reich. Ça a vraiment été comme un éblouissement qui ne m'a jamais vraiment quitté. Chaque fois que je retrouve certains des enregistrements de ses œuvres les plus fortes, par exemple Music for Aged Musicians, je suis fasciné. Adam, c'est venu peu de temps après, 2 ou 3 ans après, à la faveur du disque. Il faut bien voir qu'à l'époque, début des années 90, c'était le grand boom des CD, des disques compacts, comme on disait alors. Et c'était un matériau assez précieux qu'on s'échangeait entre mélomanes. C'est comme ça que j'ai découvert cette musique par certaines des pièces orchestrales du début des années 80, Harmonium et Harmonie Lyrae.
Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ces œuvres de Steve Reich ou John Adams ?
Eh bien, j'ai un certain goût pour le rythme, pour la pulsation. Et puis cette capacité que peuvent avoir certaines musiques d'être à la fois assez accessible et, me semblait-il, très sophistiquée, c'est-à-dire à la fois très élaborée et parlant à peu près à n'importe qui voulait bien s'intéresser à elle. Quand je devais avoir 12-13 ans, avec un camarade de classe qui était batteur, on avait monté une espèce de petit groupe de pop, de rock, et on improvisait l'un et l'autre pendant des heures et des heures. Et j'ai compris à ce moment-là ce que c'était une musique qui peut vraiment se ressentir physiquement, corporellement, j'ai envie de dire. Je crois que j'ai retrouvé ensuite, avec la musique de Reich et de Adams, ces sensations, encore une fois, vraiment physiques, qui sont étrangères à une bonne partie de la musique contemporaine, malheureusement, qui parle éventuellement à l'intellect, parfois à l'oreille, mais rarement au corps.
Alors, il y a un pan de la musique contemporaine qui se veut aussi proche du corps et du ressenti, Carole Beffa, et justement c'est celle qui apparaît dans les années 80 quand vous êtes élève au conservatoire, c'est les spectros, et c'est une musique qui ne vous a, je suppose, pas vraiment touché.
Alors si, j'ai écouté certaines pièces de Tristan Murail, par exemple Gondwana, qui m'a énormément marqué la première fois que je l'ai entendu. Un peu plus tard, j'ai découvert la musique de Michael Levinas, qui m'a toujours frappé. Michael Levinas est par ailleurs un musicien extrêmement complet, une personnalité très originale. Donc si, ça fait partie des gens que j'ai pu connaître. J'ai suivi également en lutteur libre certains cours du DEA Musique et Musicologie du XXe siècle qui avait lieu à l'IRCAM et qui était dirigé par Hugues Dufour, qui était un personnage dont on ne peut pas dire que la principale qualité était l'ouverture d'esprit, mais c'était une façon aussi de découvrir un autre aspect de la musique spectrale.
Au moment de la fin de vos études au conservatoire, dans les années 90, il y a une aventure dans la musique contemporaine française. C'est l'ensemble Phénix, hein, qui a été créé par Jean-François Zigel et Pascal Zavaro. C'est un mouvement avec d'énormes guillemets qu'on appelle néo-tonal. Est-ce que vous y avez participé ?
Alors, j'ai assisté à quantité de concerts de Phoenix. Ma musique a été jouée à au moins deux d'entre eux. Mais par la suite, il se trouve que Jean-François Zigel a prétexté du fait que je n'avais pas payé ma cotisation, ce qui était faux, pour, selon des oukases dont il est assez familier, chercher à m'exclure du groupe. De toute façon, le groupe s'est dissous de lui-même, une des raisons en étant que Jean-François Zigel, qui le dirigeait, était incapable d'écrire la moindre note de musique. Donc il a préféré que le groupe ne continue pas, puisque lui-même ne pouvait plus vraiment se considérer comme compositeur.
Et au niveau de l'esthétique, c'est des gens qui sont proches de la musique de Steve Reich, John Adams, hein, les premières pièces notamment de Pascal Zavaro qui ont été jouées dans ce contexte de Phoenix font directement penser aux œuvres de Steve Reich. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a parlé aussi à vous ?
Alors, il y avait des profils esthétiques assez différents chez Phoenix. Si je ne m'abuse, Thierry Eskisch en était le président. Et je pense qu'à titre personnel, il aime beaucoup la musique de Adams et aussi celle de Reich. On peut pas dire que leur influence, en tout cas celle de Reich, soit très forte dans sa musique. Mais c'est vrai que c'était l'occasion de découvrir une musique dont on parlait alors extrêmement peu dans la plupart des histoires de la musique, et encore moins dans les manuels. Donc oui, c'était une musique qui commençait à être jouée, beaucoup enregistrée, mais qui n'était rarement mentionnée. Donc c'était Phoenix l'occasion d'en parler avec d'autres compositeurs, et c'était évidemment très précieux à ce titre-là.
France Musique, les grands entretiens de Carole Beffa.
Comment elles arrivent pour un jeune compositeur, les premières commandes ?
Ça, c'est une très bonne question. Beaucoup de jeunes compositeurs, d'ailleurs, me la posent en demandant ce qu'ils doivent faire pour bénéficier d'une commande. On comprend le cercle vicieux qui peut parfois se transformer en cercle vertueux, mais comment on peut s'opérer le déclic ? Ce cercle vicieux, c'est pour pouvoir bénéficier d'une commande, il faudrait que je puisse être joué et être un peu connu. Et pour pouvoir être un peu joué et connu, il faudrait que je puisse bénéficier d'une commande. Enfin, c'est vraiment le cercle vertueux de la notoriété qui fait que vous êtes connu parce que vous êtes connu. Ben, dans mon cas, je dois dire que j'ai bénéficié très vite de l'appui de quelqu'un que je remercie, qui est Bruno Rilavolé, qui était à la tête, et qui est toujours à la tête du Festival des Forêts, dans la région de Compiègne, festival qui a lieu au mois de juin et juillet, et qui m'a fait confiance très tôt pour me commander 3 études pour piano. C'était en 2000. Les autres commandes sont venues un peu par la suite. Quelqu'un qui a joué un rôle essentiel de ce point de vue aussi, pour moi comme pour d'autres, c'est René Bosque, qui s'occupait de création à Radio France, et qui a fait en sorte que je puisse être le plus jeune compositeur joué au festival Présence en 2002 avec mon Salve Regina. Et il a fait en sorte que d'autres œuvres aussi soient commandées. Il a d'ailleurs fait beaucoup pour d'autres compositeurs de musique tonale comme moi.
C'est assez amusant et cocasse que votre première œuvre jouée de manière sérieuse, entre guillemets, ce soit des études pour piano. Est-ce qu'il y avait déjà un rapport avec Ligeti dans ces pièces ?
Un rapport, je ne sais pas, mais le fait qu'alors j'avais terminé mon DEA sur Ligeti et que j'étais en train d'écrire ma thèse qui portait effectivement sur les études pour piano a certainement joué.
Est-ce que dans l'écriture de piano, justement, la musique de Ligeti, elle vous influence ?
À vrai dire, j'aurais du mal à citer un seul compositeur d'aujourd'hui qui écrit pour piano qui ne soit pas un tant soit peu influencé par ses études, tellement il s'agit d'un monument de l'histoire de la musique. De m'intéresser à Ligeti m'a conduit aussi à m'intéresser à d'autres compositeurs qui avaient intéressé Ligeti lui-même, ou à d'autres musiques, par exemple celle des Pygmées Aka, mais aussi à Conlon Nancarrow, compositeur très étonnant, qui a passé quasiment toute sa vie à écrire pour piano mécanique, désespérant de pouvoir être joué avec suffisamment de précision par des interprètes humains. Je me suis aussi pas mal intéressé via Ligeti à cette idée d'une musique machinale, presque mécanique, qui chez lui fait souvent référence à Bartok, ce serait le Clocks, on va dire, par opposition aux Clouds, une musique qui, elle, serait plutôt héritière de Debussy. Le Clouds, c'est l'harmonie, sont les textures, C'est un côté contemplatif, là où le Clocks, c'est non pas l'harmonie mais le rythme, et puis un côté beaucoup plus énergique et parfois même un peu fou.
Si on essaye de résumer le langage musical de Carole Beffa en 3-4 points, ça ressemblerait à quoi ?
Je pense que j'ai un certain goût pour le systématisme, moins prégnant peut-être avec les années. J'écris une musique qui parfois peut être obstinée, que cette obstination puisse prendre la forme de quelque chose de contemplatif, dans ce cas-là c'est hyper contemplatif, ou au contraire quelque chose d'extrêmement rythmé, pulsé, énergique. Je crois que c'est un certain goût pour... les harmonies et l'harmonie en général. Il se trouve que tous les compositeurs que j'aime le plus dans l'histoire de la musique, on va dire Purcell, Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Fauré, Wagner, Debussy, Ravel, Strauss, et puis plus près de nous, Dutilleux, Messiaen, sont des compositeurs où la part harmonique est fondamentale, et j'essaie de faire en sorte que l'harmonie aussi soit un paramètre fondamental de la musique, parce que je pense que on peut avoir une musique qui se prive au moins en partie de mélodie, voire de thématisme. C'est extrêmement difficile d'avoir une musique qui puisse dessiner un discours musical et être totalement privée d'harmonie. Dernière chose, peut-être que c'est mon côté oulipien qui ressurgit. J'aime parfois essayer de faire en sorte qu'à partir de contraintes, parfois fortes, on puisse produire de l'expression. Faire en sorte, selon le joli mot que l'on prête précisément à l'Oulipo, que la contrainte libère.
Ça peut ressembler à quoi, une contrainte, par exemple, quand vous écrivez une œuvre ?
D'abord, la formation qui vous est parfois imposée est une contrainte en elle-même, ainsi que la durée d'une œuvre. Ce sont en général les deux seuls paramètres qu'un commanditaire va prendre en compte. Une œuvre, lorsqu'on la commande, c'est en vue d'une exécution lors d'un concert en particulier, et cela veut dire bâtir un programme autour de cette œuvre, donc avoir une durée maximale et puis être écrite pour une formation, une nomenclature bien précise. Mais à côté de ça, vous pouvez avoir d'autres contraintes qui sont liées, par exemple, au texte qui vous est soumis. J'ai mis en musique deux fois Daniel Pennac, une fois pour Le Nuit Loup, une autre fois pour le roman d'Ernest et Célestine. Mintra Nuit également, une jeune autrice contemporaine, ou encore Mathieu Laine, un essayiste qui a aussi été tenté par la fiction. Donc dans ces quatre cas, eh bien, vous avez un texte et libre à vous de le découper comme vous l'entendez, de mettre en évidence telle ou telle partie, mais en tout cas le texte est contrainte. Je ne parle pas des cas encore plus nets, où il m'est arrivé de m'aventurer, les musiques de scène par exemple, ou les musiques de film, ou cas intermédiaire, musique de ballet, pour lequel il y a en général un va-et-vient entre le chorégraphe et le compositeur sur la question de savoir quelle partie adopter en fonction de l'argument, par exemple, ou de l'histoire que le chorégraphe veut raconter s'il veut raconter une histoire. Parfois, le chorégraphe a une idée très précise de ce qu'il veut faire, auquel cas, il peut coucher sur le papier une idée de synopsis, d'argument, et puis vous n'avez qu'à vous plier à cette idée avec parfois même un timing assez précis. D'autres moments, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus flou. Et le plus souvent, il y a une espèce de va-et-vient entre le chorégraphe et le compositeur. Moi, c'était le cas avec Julien Lestel et sa compagnie pour un ballet Corps et âme. Nous nous sommes mis d'accord d'abord sur la thématique Corps et âme, qui devait englober aussi bien, et c'était l'âme, quelque chose qui soit de l'ordre d'une thématique religieuse ou sacrée, que quelque chose qui soit beaucoup plus corporel, physique, avec... Donc cette partie du titre « Corps », qui inclut aussi d'ailleurs un tango. Il y a deux clins d'œil au tango à certains moments qui sont effectivement danser chorégraphié comme des tangos. Donc, il y avait une certaine variété pour un ballet dont la structure, dans l'esprit de Julien Lestel, était finalement assez souple.
Parler de littérature, qu'est-ce que ça a été d'abord vos premiers chocs littéraires, hormis la bande dessinée dont on a parlé tout à l'heure?
Comme beaucoup d'enfants, le roman d'aventure, je crois, Les Trois Mousquetaires notamment. J'ai aussi été très marqué par Les Misérables de Hugo, dont un ami de mes parents m'a offert une très belle édition illustrée quand j'avais 9 ans. Assez vite, à un âge peut-être un peu trop tendre, je me suis intéressé à Baudelaire, peut-être parce que mon frère l'étudiait en classe de 3e au lycée. Et j'ai été émerveillé par cette poésie que j'ai moi-même eu l'occasion d'étudier assez tôt, dès la 3e et un peu plus tard encore, par la suite.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la poésie de Baudelaire, qui est assez importante pour votre musique?
D'abord, il me semble qu'on pourrait appliquer à ce poète le mot que l'on a réservé à Picasso. Je ne cherche pas, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a quantité de trouvailles formelles chez Baudelaire, et puis la puissance des images est sans limite. Et pourtant, c'est une poésie qui, je crois, peut parler à chacun d'entre nous. C'est une poésie qui n'est pas vraiment hermétique, c'est une poésie relativement accessible, mais où la concentration, on va dire, de puissance poétique est à nul autre pareil.
Il y a un côté aussi désespéré et sombre chez Baudelaire. Ça vous parle aussi, ce côté-là?
Oui, lorsque vous m'avez demandé de définir ma musique, je n'ai pas insisté sur cet aspect, mais je crois que n'importe qui peut s'en rendre compte à l'écoute de ma musique. Je crée une musique qui souvent se déploie dans des climats sombres, qu'ils soient énergiques ou contemplatifs. Il y a une certaine noirceur. Il y avait même un temps où mon éditeur, avec un brin d'humour évidemment, me reprochait d'avoir trop de titres, avec ombre dans le titre. Paysage d'ombre, par exemple, les ombres qui passent, les ombres errantes. C'est vrai que je suis assez sensible à des climats crépusculaires, en demi-teinte, et il n'est pas impossible que mon goût pour Baudelaire soit associé à cela.
Un extrait de La vie antérieure, un concerto pour piano et orchestre de Carole Beffa, ici interprété par Andreas Effliger au piano. L'orchestre de Paris était dirigé par Paavo Järvi. Aujourd'hui, à la prise de son et au mixage, il y avait Pierre Monteil, Pierrick Charles et Bruno Mourlan. Une émission préparée par Flora Sternadel, une réalisation de Christine Amado. On se retrouve demain pour le 4e épisode.
À réécouter sur francemusique.fr.